Théologie naturelle, Père Philippe, 9 décembre 1982, Rimont.
Nous allons continuer rapidement ce que nous avions commencé de voir à propos de Saint Anselme. J'insiste un peu parce que je crois que c'est quand même important. Je sais très bien que je pourrais vous renvoyer à l'étude qui est faite là et que on pourrait passer tout de suite. Mais comme vous avez peu de temps, que tous on ne peut pas devenir des spécialistes de Saint Anselme, hein. C'est pas souhaitable du reste. Mais c'est important de comprendre un peu cette position qui a joué de fait un tel rôle. On considère ordinairement Saint Anselme, n'est-ce pas, comme le père ou le grand-père, si vous voulez, de l'ontologisme. Alors, comme l'ontologisme a joué un rôle très important, et nous le verrons, par rapport au problème de Dieu dans la philosophie, c'est important de comprendre la position de Saint Anselme. Il y a quelque chose d'une certaine honnêteté par rapport à Saint Anselme, on le voit. Et je crois, ce que je vous avais dit, qu'il serait très intéressant à voir, combien Saint Anselme a joué un rôle important dans la pensée de Saint Thomas. Et on ne l'a peut-être pas assez montré. On n'a peut-être pas assez montré combien Saint Anselme avait été comme un révélateur pour Saint Thomas. C'est intéressant de voir ça. Si on peut, on essaiera de regarder quelques grands textes de saint Thomas là-dessus, parce que c'est important de voir la réaction de saint Thomas sur saint Anselme. Alors, je vous disais la dernière fois, hein, vous vous souvenez, rappelez-vous, réactuez vos concepts sur saint Anselme, c'est-à-dire regardez le monologion, le prosmologion et puis le liber apologeticus. Alors, sachez au moins ces trois noms, n'est-ce pas ? Et autant que possible, mettez derrière quelque chose qui corresponde à cette recherche de saint Anselme par rapport à son petit novice qui a des tentations. Alors, le petit novice qui a des tentations, il avait un père merveilleux, intelligent, qui pouvait montrer que ces tentations, c'était pas grand-chose. Mais à côté du petit novice, il y a quelqu'un d'autre. Il y a Gonilon, qui n'est pas un novice, hein. Et Gonilon est là pour lui dire « Attention, attention, ce que vous dites, c'est complètement idiot. » Je ne sais pas si le novice l'a entendu, mais toujours est-il que la grande objection de Gonilon, celle qui détruit l'argumentation à sa base, c'est qu'il est impossible d'avoir un concept de ce qui est plus grand que tout. Il n'est pas bête, Gonilon. Hein, c'est le critique. C'est intéressant de voir le critique. Vous voyez tout de suite, hein, on voit la critique et la métaphysique. Hein. Alors ici, il y a deux personnages différents. C'est Gonilon qui est là. Comme il est impossible d'en avoir un de Dieu, puisqu'on ne connaît pas immédiatement la réalité qu'est Dieu, et que l'on ne connaît aucune réalité semblable à partir de laquelle on puisse conjecturer la réalité de Dieu. Vous voyez, c'est important parce qu'au fond, c'est ça la question du fondement, de savoir si on peut partir d'une expérience religieuse. Si vous aviez une idée de Dieu, vous pourriez partir d'une expérience religieuse. Et l'expérience religieuse vous ferait entrer dans une philosophie particulière qui serait l'ontologisme. On vous a dit que tous les ismes devaient être condamnés. Alors, n'est-ce pas ? Donc, l'ontologisme, vous voyez bien, ça fait partie de ces condamnations, n'est-ce pas ? Alors, voyons bien ce que se représente l'ontologisme, hein, et que l'on ne connaît aucune réalité semblable à partir de laquelle on puisse conjecturer la réalité de Dieu. Nous pouvons certes penser quelque chose d'un homme qui nous est inconnu, et dont nous ignorons même s'il existe, parce que nous avons de l'homme une connaissance spécifique et générique. C'est très intéressant de voir ça. Je peux avoir une connaissance de l'animal, puisque je connais l'homme. C'est suffisant. C'est vrai. C'est pour ça que vous pouvez dire espèce d'animal à quelqu'un qui vous ennuie, n'est-ce pas ? Et qui est là pour vous... Alors vous pouvez dire ça, parce que vous avez une connaissance de l'homme. Alors ayant une connaissance de l'homme, vous avez une connaissance générique de l'animal. Et vous avez une connaissance spécifique de l'homme. Mais Gonilon n'est pas si bête. Il sait bien que Dieu n'est pas dans un genre. Dieu n'est pas dans l'espèce. Vous voyez, c'est intéressant de voir ça. Si Dieu était dans un genre, le genre animal, connaissant l'homme, je connaîtrais Dieu. Si l'être était une connaissance générique, connaissant, vous voyez, si l'être était une connaissance générique, connaissant l'homme, qui est un être, je connaîtrais Dieu. Alors faites un petit peu comme ça, vous voyez, des petites humaines. Vous avez le genre animal. L'homme, je connais à peu près ce que c'est que l'homme. Je me connais. Donc, l'animal, c'est le genre. Et puis, rationnel, c'est l'espèce. Ou c'est la différence spécifique, c'est plus juste de dire ça. C'est la différence spécifique à partir de quoi il y a l'espèce, puisque c'est l'homme qui est l'espèce. Alors, voyez, soyons heideggeriens, un instant, n'est-ce pas? Et disons que l'homme, c'est un étang. C'est vrai, c'est un étang, l'homme. Parmi les étangs, il y a l'homme. Alors, il peut y avoir donc, à partir de là, une espèce de connaissance générique de tous les étangs. Il y a un petit peu ça chez Heidegger, c'est pour ça qu'il dit « soyons heideggeriens pendant un instant ». Et comprenons qu'il y a tous les étangs qui est mis dans un genre. Alors vous avez le genre des étangs. Les étangs, c'est les êtres limités. C'est les êtres limités. C'est les êtres qu'on peut étudier de l'extérieur. Et puis, il y a l'être. L'être, même pour Heidegger, n'est pas dans un genre. L'être pour Aristote n'est pas dans un genre. L'être pour saint Thomas n'est pas dans un genre. Il faut comprendre ce que ça veut dire, hein, parce que là, je m'appuie sur des autorités. C'est très intéressant de savoir que, et pour Guenilon, l'être n'est pas dans un genre. Alors, est-ce que j'ai un concept de l'être? Pour Heidegger, non. Pour Aristote, oui. Le concept n'est pas toujours générique. Oui, alors ça, c'est le grand équivoque de Heidegger, c'est de croire que tous les concepts sont génériques. Non, il y a des concepts analogiques. J'en profite parce que c'est ce que nous verrons tout le temps. Donc il faut essayer de, là, d'avoir un petit tableau et de comprendre un tout petit peu ce que c'est qu'un concept analogique. Ce n'est pas un concept générique. Alors, quelle différence y a-t-il entre le concept générique et le concept analogique? Ça, c'est de la critique. Hein, c'est de la critique. Concept générique, c'est lorsque la signification de ce concept est la même pour tous ceux qui sont dans ce genre. La signification de animal est la même pour le crapaud et pour l'homme. C'est la même signification. Qu'est-ce que c'est qu'animal? Animal, c'est un vivant qui a la sensibilité. C'est ça, animal, qui a de la sensibilité. C'est pour ça que le crapaud a sa sensibilité et l'homme a sa sensibilité. Alors à ce moment-là, vous pouvez dire que l'animal, c'est une signification générique. Tandis que le concept analogique, c'est dans lequel il y a une diversité de significations. C'est le propre du concept analogique. Il y a une diversité. C'est que tout de suite, quand je pense au concept d'être, il y a une diversité complète. La diversité, c'est que je peux penser l'être comme étant l'homme, comme étant l'animal, comme étant aussi un être possible. Alors, diversité des concepts, du moins, diversité de la signification, le concept analogique. Alors, est-ce que je peux mettre au terme, vous voyez, c'est là où il faut bien saisir, concept analogique. Si je suis suarésien, je mets que le concept analogique est fini et infini. Alors, c'est là la grosse question. Est-ce que saint Anselme est suarésien? Avant la lettre, hein, comprenez bien, avant la lettre, parce que c'est ça. Est-ce que saint Anselme est le grand-père de Suarez? Ce serait intéressant de savoir ça. Il faut se poser la question. C'est là où on fait un dialogue, vous voyez? Un dialogue entre les philosophes et les théologiens entre eux. Et c'est intéressant de se poser la question. Parce que, pour Suarez, le concept d'être est fini-infini. Si le concept d'être est infini, vous comprenez qu'au terme, il y a Dieu. Et fini, les étangs, dans le langage heideggerien. Alors, pour Heidegger, pas de concept d'infini, et Heidegger a raison là-dessus, et là il s'oppose justement à Suarez, et il a raison, pas de concept d'infini, pas de concept. Mais alors pour lui, pas de concept d'être, parce que le concept d'infini, c'est justement le concept d'être. Et voyez comment il nie le concept d'être, à cause de l'infini. Et c'est très vrai, il n'y a pas de concept d'être infini. Alors, Gonilon dit, pas de concept de Dieu, donc pas de concept d'être infini. Nous avons un concept d'être, mais nous n'avons pas un concept d'être infini. Donc la division suarezienne de l'être fini et infini comme divisant immédiatement l'être n'est pas exacte. Pourquoi ? Parce que justement, l'être n'est pas divisé en fini et infini. Votre concept d'être n'est pas divisé en fini et infini parce que vous n'avez pas l'expérience de l'être infini. Or, votre concept d'être présuppose une expérience. Et donc, vous n'avez pas fini, infini, puisque vous n'avez pas l'expérience du fini, de l'infini. C'est ce qu'il dit, pas de concept de Dieu, vous n'avez pas l'expérience de Dieu. Alors, vous voyez que c'est assez complexe. Hein? Et Gonilon va assez rude, hein? Il va carrément. Alors, Gonilon dit, pas de concept de Dieu, donc, ce que vous dites. Parce que dès qu'on a un concept, il y a la signification. Alors, il faut comprendre que nous n'avons un concept analogique. Ce concept analogique, vous voyez, n'est pas un concept de Dieu. Après avoir vu Suarez, regardons maintenant ce que doit être ce concept analogique. Ce concept analogique, c'est par exemple l'être en acte et l'être en puissance. C'est là où l'analogie est la plus manifeste. Mais je ne dis pas l'être en acte égale fini, l'être en puissance égale infini. Parce que ce n'est pas la même chose du tout. L'être en acte, il n'est ni fini ni infini, c'est l'être en acte. Et l'être en puissance, il n'est ni fini ni être infini. Il est donc là. C'est autre chose. C'est une division à l'intérieur de l'être. Et c'est vrai, dans mon concept d'être, j'ai l'être en acte et l'être en puissance. C'est sûr. Il y a la notion de l'être en acte et de l'être en puissance. Mais ce n'est pas le concept de Dieu. Donc pas de concept de Dieu. Dieu est au-delà. Dieu est au-delà de la signification analogique de l'être. Dieu est au-delà de la signification analogique de l'être. Dieu n'est pas compris dans la signification analogique de l'être. Alors vous allez dire, ah non, on ne peut jamais atteindre Dieu. Mais comme c'est important, il y a un passage qui est très très difficile à bien saisir, le passage entre la négation absolue de la connaissance de Dieu et le passage de l'ontologisme. L'ontologisme consiste à dire, en fond, c'est là la parenté entre Suarez et l'ontologisme. L'ontologisme dit qu'il y a un concept d'être infini. C'est pour ça qu'il y a un concept de Dieu. Pour un saint Anselme, il y a un concept de Dieu. Et pour Suarez, il y a un concept de Dieu. Après, si on a la même, face à, il faudra voir ensuite. Comment il y a une parenté entre Saint-Anselme et Suarez. Ça, c'est intéressant. Ça n'a pas l'air à première vue, et c'est très important. Ça montre que les Suarezens sont incapables de répondre à Saint-Anselme, puisqu'ils sont en communion. Et c'est très important de saisir ça. Parce que ça montre comment l'ontologie s'est introduite dans le thomisme. À travers Suarez, à travers ce concept infini, à travers ce concept de l'être infini. Ou alors il y a un certain concept de Dieu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de concept de Dieu, même analogique. Donc, la signification de l'être analogique ne contient pas Dieu. Mais, au-delà du concept, il y a le jugement. Et mon jugement peut, alors, atteindre l'essai de Dieu. Ce que nous verrons. Quand j'atteins l'essai de Dieu, ça ne veut pas dire que j'ai un jugement. Quand j'atteins l'essai de Dieu au niveau du jugement, ça ne veut pas dire que j'ai un concept de Dieu. Dieu est saisi comme un nom. et non pas comme un concept. Et je peux saisir Dieu comme un nom, mais il n'y a pas de concept de Dieu. Et vous voyez, là, le passage entre les deux, hein, ça c'est capital. Il faudra du temps avant de comprendre bien, parce que c'est une chose très très difficile à bien saisir. Vous voyez, il y a deux choses à saisir ici. La différence entre le concept de l'appréhension et le point de vue du jugement. Le jugement porte sur l'essai. Le concept porte sur la signification, la fluidité. C'est pas le concept en premier lieu saisit la fluidité. C'est l'ordre de fluidité. Contient les lignes. Alors, le concept se divise en concept générique et en concept analogique. Et puis, il y a quelque chose qui est au-delà du concept analogique, qui est le jugement. Vous voyez toutes les distinctions qu'il faut faire. Hein? Je les fais ici au niveau critique, je ne les invente pas là. Je présuppose qu'elles existent. Si je veux comprendre l'opposition de Guenilhon à Saint-Anselme, il faut voir ça. Autrement, je ne comprends pas. Oui. Il faut voir que Guenilhon dit « pas de concept de Dieu ». Or, vous présupposez un concept de Dieu. Pas de concept de Dieu. Ah, il peut y avoir une affirmation d'existence de Dieu, ça Guenilhon, c'est autre chose. Hein. Il n'insiste pas là-dessus. Saint Thomas insistera là-dessus. Et Guenilhon dit d'abord ça, c'est la grosse artillerie contre Saint Anselme. On détruit ce que Saint Anselme dit. Cette trouvaille merveilleuse, il avait découvert la possibilité d'enlever la tentation du petit novice. Eh bien non, c'est imaginatif. Alors continuons à voir bien ça. Mais Dieu, ou celui qui est plus grand que tous, nous ne pouvons le penser que d'après le mot que nous entendons, ce qui ne nous permet pas de penser quelque chose de vrai. Ce qui est plus grand que tous est une réalité totalement ignorée que l'esprit s'efforce d'imaginer, uniquement d'après les mots qu'il entend. Il semble bien que l'objection de Guenilhon soit celle-ci, Dieu, nous ne le pensons pas, nous l'imaginons. Le seul essai que ce maius omnibus est dans notre intelligence, c'est un essai imaginaire. C'est très gros comme critique, hein, mais c'est bien vu. Quand vous prétendez, vous êtes resté sur le mot. Vous voyez, ça, c'est très intéressant au point de vue philosophique. C'est que c'est très vrai. Il y a le mot Dieu. Il y a le mot. Il faut penser au mot de Sartre. Il y a le mot Dieu. Et ce serait très important de le reprendre, ça. Il y a le mot Dieu. Le mot Dieu, qui est donné par qui? Le mot Dieu est donné par les traditions religieuses. Le mot Dieu est donné par la révélation. Ce n'est pas la philosophie qui me le donne. Donc il m'est donné par les révélations religieuses. Je nomme Dieu à cause des traces de Dieu. Regardez dans un... On verra ça avec Abraham, c'est très très net. Hein? Passage de Dieu, ce lieu s'appellera ça. Et Dieu est appelé en fonction de ce passage. Exactement comme Marie, on l'appelle en fonction de ses apparitions. Oui. En fonction des apparitions de la très sainte Vierge, on lui attribue un nom, vous voyez. C'est les mots, c'est les noms, c'est ça, c'est les mots. Vous avez un mot de Dieu, mais est-ce que vous avez une signification de Dieu? Pas nécessairement. Le mot peut être symbolique, il peut être porteur d'une représentation imaginative. Le mot Dieu est porteur d'une imagination, c'est très vrai le mot Dieu. Dès que je dis Dieu, ah, immédiatement, ça provoque en moi l'adoration. Vous voyez, je me mets immédiatement à genoux, c'est le mot Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est la signification directe de Dieu. Oui, c'est l'importance du mot. Les mots ne sont pas toujours, et c'est propre du mot, parce que le mot, il naît dans le jugement. Le mot, le nom, il naît dans le jugement. Il ne naît pas nécessairement dans l'appréhension. Alors, ceux qui connaissent un peu la différence entre l'appréhension et le jugement peuvent comprendre. Les autres, c'est plus difficile. Alors qu'ils comprennent qu'il y a là un lièvre qu'il faut essayer de saisir, hein, la différence entre l'appréhension et le jugement. deux opérations qui sont en nous, l'appréhension et le jugement, et que le jugement va plus loin que l'appréhension. Chose que les scolastiques n'ont pas saisie parce qu'ils sont suarésiens. Et c'est vrai, ils n'ont pas saisi assez que le mot, le nom, parce qu'il relève du jugement, va plus loin. Le jugement d'existence est antérieur à l'appréhension. Il implique une appréhension, c'est sûr. Tout jugement implique une appréhension. Mais le jugement va plus loin dans sa connaissance que l'appréhension. Il n'est pas mesuré par l'appréhension. Vous voyez, faites l'analogie avec le point de vue de la connaissance et l'amour. Ce serait très intéressant. Exactement comme l'amour va plus loin que la connaissance, et que l'amour n'est pas mesuré par la connaissance, de même, le jugement va plus loin que l'appréhension, et le jugement n'est pas mesuré par l'appréhension. Il est mesuré par la réalité. Mon intelligence est mesurée par l'arrêté. Mon intelligence n'est pas mesurée par mon appréhension. Si mon intelligence était mesurée par mon appréhension, j'aurais la philosophie des idées. Et donc, ce qui serait premier, c'est l'idée, qui mesurerait toute mon activité intellectuelle. C'est la réalité qui mesure mon intelligence. C'est pas l'idée, c'est pas l'appréhension. Donc il y a quelque chose d'analogue là qui peut aider à mieux comprendre. Saint Anselme, devant une objection aussi radicale, ne s'avoue pas vaincu. Maintenant, parce qu'il doit défendre le petit novice, donc il doit être très 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 fort. Mais au lieu de répondre directement, il fait d'abord appel à la foi. C'est très intéressant de voir ça. Parce que ça, alors ça nous montre exactement ce que c'est Saint Anselme. Quand il est coincé, il fait appel à la foi. Ce qui prouve, vous voyez, que malgré ce qu'il dit, que c'est un raisonnement purement rationnel, dès que le loup approche, immédiatement je m'appuie sur la foi. Mais au lieu de répondre directement, il fait d'abord appel à la foi et à la conscience de l'objectant. Celui-ci, s'il écoute sa conscience et sa foi, devra reconnaître qu'il est faux de dire que Dieu, ou ce dont on ne peut rien penser de plus grand, n'est ni compris, ni pensé, n'est pas dans l'intelligence. Cela est très significatif. Penser, cogitare, est impliqué dans la foi. Ou plus exactement, penser Dieu implique la foi. Et donc, quand il veut arriver, ça c'est tout le problème de Saint Anselme qu'on touche là, est-ce que je peux arriver à penser Dieu en le coupant de sa base, puisque je suis parti de la foi ? Je suis en face du nom de Dieu, qui est lié donc à la foi. Est-ce que je peux, quand je crois en Dieu, ça implique que pas Dieu naissait, ça implique que Dieu existe, c'est bien évident. Est-ce que je peux, quand je dis croire à Dieu est dans un jugement. C'est un jugement, croire à Dieu. C'est un jugement. C'est un jugement de foi. Je crois en Dieu. Quand vous dites votre credo, ne dites pas quand vous dites votre credo. Jugement. C'est ça, c'est un jugement. C'est un jugement d'existence. Quand vous dites je crois en Dieu, c'est un jugement d'existence. C'est un jugement d'existence qui repose sur votre foi. C'est bien évident que normalement, quand vous récitez votre credo, vous dites affirmation de foi. Ça repose sur votre foi. Votre jugement d'existence qui porte sur l'existence de Dieu. Peut-on faire cette opération chirurgicale de dire que ce jugement d'existence qui porte sur l'existence de Dieu implique un concept de Dieu. C'est très intéressant ça. Votre jugement d'existence, est-ce que vous pouvez arriver à faire cette séparation en disant ça implique la signification de l'être de Dieu, dans ce jugement d'existence. Est-ce que le concept et le jugement sont adéquats? Ça revient à ça. Vous avez un jugement sur l'existence de Dieu, ça vous ne pouvez absolument pas le nier, tout croyant a un jugement sur l'existence de Dieu. Est-ce que, en tant que croyant, ayant ce jugement sur Dieu, est-ce qu'il implique l'essai de Dieu, le concept de Dieu? Et c'est très joli, ça. Et c'est, ça nous fait toucher quelque chose de très, très fondamental. Ça a été dit, ces choses-là. Hein. C'est vieux, mais ça a été dit. C'est des choses qui sont encore très actuelles. N'est-ce pas ? Quand le livre sur Dieu et Dieu sans l'être. C'est intéressant de voir ça. C'est le dernier livre hein, de Marion. C'est très intéressant de voir ça. Dieu sans l'être. Est-ce que je peux mettre ces choses-là ? Est-ce que ça a un sens de dire ça ? Vous voyez, c'est juste l'inverse. C'est l'inverse de Saint-Antoine. Il faudrait mettre ça, les deux, en opposition. Ce serait très intéressant. Ce seraient les deux extrêmes. Hein. Et tous les deux sont ontologistes. Parce que dire que, en disant « je crois en Dieu, l'existence de Dieu », il y a une signification de Dieu, et de dire que Dieu sans l'être, je crois qu'on affirme Dieu existe. Si je dis Dieu existe, qu'est-ce que je fais de l'être ? Alors je dis Dieu sans l'être. Vous voyez, des deux côtés, c'est juste les opposés. C'est toujours intéressant d'avoir deux positions extrêmes. C'est très éclairant, deux positions extrêmes, parce qu'il y a la même confusion. Il est clair qu'une telle affirmation ne peut plus suffire. Aussi, saint Anselme va-t-il reprendre son argument sous une forme hypothétique. Ah, ça c'est très très joli. Hein. On va s'enfuir dans l'hypothèse. Pour en montrer le fondement et souligner l'erreur de l'objectant. Si on peut penser que ce dont on ne peut rien penser de plus grand est, il est nécessaire qu'il soit. Mais si, c'est une hypothèse. Hein. Donc c'est l'hypothèse reposera là-dessus. Si on peut penser que ce dont on ne peut rien penser de plus grand est, il est nécessaire qu'il soit. Bien plus, si seulement on peut le penser, il est nécessaire qu'il soit. C'est toujours ça, mais c'est ça qu'il objecte. On ne peut pas le penser. Et Saint-Anselme continue. Mais si on peut le penser, il existe. Mais oui, si on peut le penser, mais on ne peut pas le penser. C'est ça la difficulté. C'est le dialogue des deux. En effet, si quelque chose dont on ne peut rien penser de plus grand existait, vous voyez, il a découvert quelque chose et on est dans son ornière. Hein, on est tous comme ça, c'est extraordinaire ça, comme les ornières sont puissantes. Hein. Si quelque chose dont on ne peut rien penser de plus grand existait, il ne pourrait pas ne pas être, ni en acte, c'est-à-dire dans la réalité, ni en pensée, sinon il ne serait pas ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Ça a été dit déjà. Or, tout ce qui peut être pensé et qui n'est pas, s'il était, pourrait ne pas être, soit dans la réalité, soit dans l'intelligence. C'est pourquoi si seulement ce dont on ne peut rien penser de plus grand peut être pensé, il ne peut pas ne pas être. Supposons maintenant qu'il ne soit pas, si seulement on peut le penser, mais tout ce qui peut être pensé et n'est pas, s'il était, ne serait pas ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Il revient exactement à son raisonnement précédent. Oui, Gunilon n'a absolument rien modifié de son intelligence. Il n'a pas vu que Gunilon touchait là un point qui était très important et que lui ne voyait pas. On est donc une fois de plus acculé à une absurdité, puisque ce dont on ne peut rien penser de plus grand ne serait pas ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Il faut donc affirmer que si on peut le penser, ce dont on ne peut rien penser de plus grand, il existe. Et bien plus fort, à bien plus forte raison, devra-t-on dire, s'il peut être dans l'intelligence, nécessairement, il existe. Bon. Si je le pense, il est dans l'intelligence. S'il est dans l'intelligence, il existe. Il s'agit maintenant de prouver que ce dont on ne peut rien penser de plus grand est bien dans notre intelligence. C'est ça la difficulté, hein, puisque c'est là-dessus que Gunilon a porté. Voici quelle est l'argumentation de saint Anselme. Ce qui n'est pas toujours, ce qui n'est pas partout, ce qui est composé de parties dont certaines ne sont pas là où sont les autres, ou pas en même temps, peut ne pas être. Et peut être pensé comme n'existant pas, même s'il est. Tandis que, alors, privilège, hein, privilège de l'omniprésence. C'est extraordinaire. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est le même argument que vous retrouvez dans tout l'ontologisme. C'est Saint Anselme qui leur a donné ça. Donc le privilège de l'omniprésence. Tandis que ce dont on ne peut rien penser de plus grand ne peut pas être pensé comme n'existant pas. Ce qu'on a démontré. Donc il est toujours et il est partout tout entier. Il est omniprésent. S'il est omniprésent, il est donc dans l'intelligence. Or, comment celui dont nous comprenons tout cela ne serait-il pas jusqu'à un certain point compris, donc dans l'intelligence? S'il n'était pas, nous n'aurions pas pu comprendre tout cela. Il faut donc conclure que certainement celui dont on ne peut rien penser de plus grand est compris, et il est dans l'intelligence. Dans la mesure où nous pouvons le comprendre, de lui toutes ces choses. Oui, il a une espèce de volonté de montrer ça. C'est intéressant parce que je vous dis, c'est le fondement de tous les arguments des ontologistes. La confusion entre l'ordre de l'exister et de l'ordre de l'intelligibilité. Il est bien évident que si Dieu existe, il est partout. S'il est partout, il est donc dans l'intelligence. L'ordre de l'exister et de l'ordre de l'intelligibilité. Il est bien évident que si Dieu existe, il est partout. S'il est partout, il est donc dans l'intelligence. Et s'il est dans, est-ce qu'il est dans l'intelligence en tant que je le comprends ou est-ce qu'il est dans l'intelligence en tant qu'il est créateur? Ah, c'est là la question. Arrêtons-nous un instant à cette argumentation. Pour en mesurer la valeur, avec tout le respect qu'on doit à Saint Anselme, parce que Dieu du ciel nous écoute, hein. Il dit oui, vous comprenez bien, j'ai dit des bêtises. Dieu du ciel, il dit ça, j'en suis sûr. Bon, j'ai dit des choses que okay. Maintenant, je dirais plus tout à fait la même chose. Bon. Elle peut, pour l'essentiel, se résumer ainsi. J'essaie de résumer. Partout et toujours. C'est intéressant, vous voyez, de mettre partout et toujours. Parce que c'est les attributs de l'éternité. L'éternité et l'omniprésence. N'oublions pas, Saint Anselme est un théologien. C'est très bien que Dieu est éternel et qu'il est omniprésent. Alors, on va faire de cette idée l'éternité et l'omniprésence. Ce qui est vrai de Dieu, on le fait vrai de l'idée de Dieu. Et à partir de là, on va se mettre à argumenter. Or, ce qui est vrai de Dieu n'est pas vrai de l'idée de Dieu, puisque toute la question, c'est de savoir si l'idée de Dieu. Ce n'est pas en arguant à partir de l'omniprésence et de l'éternité qui sont des attributs de Dieu que je vais défendre l'idée qu'il existe nécessairement dans mon intelligence un être plus grand. Il y a une pétition de principe, autrement dit. Alors, c'est assez... Vous voyez, c'est ça, noyer le poisson, hein. C'est très habile, hein. Vous pouvez faire ça dans une argumentation devant des gens qui ne pensent pas beaucoup. Vous pouvez faire ça, vous êtes habile alors. Vous pouvez très bien. Vous noyez le poisson par les propriétés. Hein. C'est toujours comme ça qu'on fait, en bonne rhétorique. Alors on noie le poisson par les propriétés. On attaque cette idée de Dieu. Oh, mais vous allez voir. Alors la sauce de l'éternité de l'omniprésence, ça va noyer complètement le poisson. Il va être enveloppé de l'éternité de l'omniprésence. Mais cette idée de Dieu, nécessairement, elle est éternelle et omniprésente, comme Dieu lui-même. Donc vous ne pouvez pas nier qu'elle est dans l'intelligence, puisqu'elle est omniprésente. Vous iriez à dire que Dieu n'est pas omniprésent. Vous êtes bien obligé de dire que Dieu est omniprésent. Vous êtes bien obligé que Dieu est éternel. Alors voyez, vous aboutissez à dire que l'idée de Dieu, elle est toujours présente dans mon intelligence. Donc elle est innée, Rosmini. On retrouve exactement, Rosmini, c'est le siècle dernier, et c'est le dernier grand ontologisme qui a joué un rôle très important à Milan. Et tous les étudiants de Milan sont rosminiens. Et ils se disent thomistes. Eh bien, ils ne le sont pas. Parce qu'ils sont avec cette omniprésence et cette éternité. Mais je vous affirme, une fois qu'on a saisi ça, on tient une clé qu'il faut secouer très fort, parce qu'elle est très forte. Elle est très forte, on tient quelque chose de très important. C'est pour ça que Saint-Anselme est intéressant, parce qu'il est à l'origine de tout un grand mouvement philosophique. Alors, comprenons. Hein. Peut se résumer ainsi, partout et toujours, peuvent être attribués à ceux dont on ne peut rien penser de plus grand. On l'attribue à Dieu, donc on l'attribue à l'idée de Dieu. Or, on ne peut douter que partout et toujours soit compris par l'intelligence. Partout et toujours est compris par l'intelligence. C'est l'esprit. L'esprit, il est partout, il est toujours l'esprit. Puisque l'esprit est incorruptible, et l'esprit n'est pas dans un lieu. Donc, partout et toujours, c'est toujours dans l'intelligence. Donc, ce dont on ne peut rien penser de plus grand est lui-même compris par l'intelligence. Et par conséquent, il est dans l'intelligence. Saint Anselme, ici, présuppose que partout et toujours soient vraiment compris et sont dans l'intelligence. Mais le sont-ils vraiment? Gonilon pourrait répondre qu'ils sont d'ordre imaginaire, comme ceux dont on ne peut rien penser de plus grand. En réalité, partout et toujours, ne sont-ils pas des modalités de l'infini, de l'être infini? Partout et toujours sont des modalités de l'être infini. Dieu seul est éternel et omniprésent, parce qu'il est l'être infini. Parce qu'il est l'être infini. Donc, parce qu'il est l'être infini, il est partout et omniprésent. Mais alors, si être éternel, être infini, n'est pas un concept que je possède, mais simplement une imagination, de même, partout et omniprésent. Vous voyez le raisonnement, hein ? Je le reprends parce que c'est intéressant à bien saisir ce point de vue-là. Éternité omniprésente sont des modalités de l'être de Dieu. Tous ceux qui ont fait un peu de traité de Dieu, tous ceux qui ont la foi, savent très bien que le propre de Dieu, c'est d'être l'éternel et d'être l'omniprésent. Ce sont des propriétés de l'être infini. Et dans la mesure où l'esprit est un être infini, ce que dit Feuerbach, dans la mesure où l'esprit est un être infini, dans cette même mesure, l'esprit est éternel et omniprésent. Vous voyez le point de vue? Alors, si éternel et omniprésent sont des propriétés de l'être infini, puisque l'être infini est dans l'intelligence, nécessairement éternel et omniprésent est dans l'intelligence. Donc ça ne prouve rien du tout, puisque j'ai nié l'idée que l'être infini est dans l'intelligence. J'ai nié que nous avions une idée d'infini. C'est pas en ajoutant éternité et omniprésent que ça va ajouter quelque chose. Ça va simplement noyer le poisson. En réponse à l'objection de Gonilon, selon laquelle nous ne pouvons pas penser ce dont on ne peut rien penser de plus grand, comme une réalité qui nous serait connue par le genre ou l'espèce, parce que nous ne connaissons pas la réalité elle-même et que nous ne pouvons pas la conjecturer à partir d'autres semblables, Saint Anselme montre qu'il en va tout autrement. Donc de nouveau, Saint Anselme va donner une autre argumentation. Puisque tout bien moindre, c'est de Saint Anselme ça, puisque tout bien moindre est semblable au bien plus grand, dans la mesure où il est bon. Vous voyez la petite analogie qui commence à naître, hein, c'est intéressant ça, dans Saint Anselme. Hein, puisque tout bien moindre est semblable au bien plus grand, dans la mesure où il est bon, il est évident à tout esprit raisonnable, patet quilibet rationabili menti, donc il est tout à fait évident à tout esprit raisonnable, que nous élevant des biens moindres aux biens plus grands, nous pouvons, à partir des choses comparativement auxquelles on peut concevoir quelque chose de plus grand, conjecturer grandement ce dont on ne peut rien concevoir de plus grand. On ne raisonne plus ici à partir de l'être, mais on raisonne à partir du bien. Oui, c'est une autre manière de raisonner. Vous êtes tout à fait d'accord, c'est le procédé de l'analogie. Vous pouvez, à partir de bien moindre, connaître le bien supérieur dans la mesure où il est bon. Donc, vous pouvez pousser jusqu'au bout Puisque vous pouvez penser le bien, vous pouvez donc penser le bien infini, et donc vous pouvez penser le bien le plus grand qui soit. Ainsi, qui pourrait ne pas penser, même s'il ne croit pas que ce qu'il pense existe réellement, que s'il existe un bien qui a un commencement et une fin, le bien qui a un commencement mais n'a pas de fin, dont on ne cesse jamais d'exister, est considérablement meilleur. Et meilleur encore, le bien qui n'a ni fin ni commencement. Je peux très bien imaginer ça. Je pense au bien, je vois des biens limités, je vois qu'il y a du plus et du moins dans le bien. Alors, je fais l'éclatement. Puisque je peux penser des biens différents, je peux penser un bien qui n'a pas de fin. Oui. Je peux penser un bien qui n'a ni commencement ni fin. Oui, donc je peux penser le bien infini. Donc je pense le bien infini, et ce bien infini, il existe, puisque je le pense. Vous voyez la manière dont il reprend l'argumentation. Il l'a essayé par l'être, il est coincé. C'est les deux extrêmes de notre pensée, vous savez bien. Et c'est intéressant ce point de vue-là. C'est là où on voit que Saint Anselme n'est pas bête et qu'il a quand même un sens métaphysique. N'est-ce pas ? Alors, il y a le point de vue de l'être, il y a le point de vue du bien. Alors, puisque du côté de l'être, il vient d'être battu, ben on va ajouter du bien. Oui, la métaphysique et l'éthique, c'est intéressant. C'est les deux extrêmes, le bien et l'être. Alors, il est battu du côté de l'être, eh bien, restons du côté éthique, ce que disent les modernes. C'est intéressant ce que disent les modernes. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu du côté de l'être, mais du côté éthique, ah oui, oui, oui. Du côté éthique, on peut. Alors, on vient du côté éthique. Alors, on va recuter du côté du bien. On peut très bien donner ce petit raisonnement. Ainsi, qui pourrait ne pas penser que s'il existe un bien qui a un commencement et une fin, le bien qui a un commencement mais qui n'a pas de fin est considérablement meilleur. Et meilleur encore, le bien qui n'a ni fin ni commencement. Mais ça, c'est bien, bien évident. Vous êtes tous d'accord là-dessus, j'espère. Je pense le bien, je vois qu'il y a du plus et du moins dans le bien. Donc, un bien qui n'a pas de fin est meilleur qu'un bien qui a une fin. Un repas qui n'a pas de faim est meilleur qu'un repas qui a une faim, c'est bien évident. Parce que vous pouvez manger tout le temps, c'est bien meilleur. Un gâteau qui n'a pas de faim, c'est bien meilleur. Donc le bien est considérablement bien. Et s'il n'a ni faim, ni commencement, ni faim, c'est merveilleux. Donc on est en face du divin. Mais un bien qui n'aurait en aucune manière besoin de changer, ni de se mouvoir, ne serait-il pas encore meilleur que le précédent ? Cela, ne peut-on pas le penser ? Oui, c'est tout à fait une espèce de propagande d'élection municipale. Et peut-on penser quelque chose de plus grand que cela ? C'est exactement de la même façon. Alors lui, c'est pour Dieu, n'est-ce pas ? C'est une élection municipale merveilleuse. On pense que Dieu existe, c'est évident. C'est le bien suprême. Et au fond, vous avez tous une nostalgie du bien suprême. Eh bien, vous pouvez avoir cette nostalgie du bien suprême. Si vous en avez la nostalgie, il existe. Autrement, vous n'en auriez pas la nostalgie. Vous te demandez quoi devant ça ? Parce qu'autrement, on n'aurait pas la nostalgie. Si vous avez cette nostalgie du bien suprême, c'est pas si bête, remarquez. Hein, si vous n'avez pas cette nostalgie, ben, il n'aurait pas de bien. C'est pour ça que c'est beaucoup plus... Vous voyez, du côté du bien, c'est beaucoup plus vrai que du côté de l'être. Et on le sent bien. On sent bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus juste que du côté du bien que du l'être. C'est pour ça que c'est intéressant de voir le raisonnement du côté de l'être et le raisonnement du côté du bien. Ou n'est-ce pas là, à partir des choses dont on peut penser quelque chose de plus grand, conjecturer ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Il y a donc un point d'où l'on peut conjecturer ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Ainsi, à Guenilon qui réclamait « Commencez par me prouver que ce qui est plus grand existe quelque part dans la réalité », et ensuite je conclurai qu'il subsiste aussi en lui-même, puisqu'il est plus grand que tous, Saint Anselme répond en revenant aux réalités existantes, et d'une façon très particulière, il revient par rapport à la réalité bonne. Et si Guenilon soutient qu'on ne peut pas penser ou comprendre ce dont on ne peut rien penser de plus grand, Saint Anselme répond soit, alors c'est intéressant, il concède. Mais même s'il était vrai qu'on ne peut penser ou comprendre ce dont on ne peut rien penser de plus grand, il ne serait cependant pas faux que l'on peut penser et comprendre ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Ça, subtil. Hein. C'est de lui, ça, textuellement. Je le relis pour que vous voyez la subtilité. Mais même s'il était vrai que l'on ne peut penser ou comprendre ce dont on ne peut rien penser de plus grand, il ne serait cependant pas faux, donc c'est pris d'une façon négative, que l'on peut penser et comprendre ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Autrement dit, à supposer que l'on ne puisse comprendre la réalité en question, on peut cependant en saisir l'énoncé. Puisque je le dis, vous êtes bien obligé de reconnaître que ça existe, puisque je le dis. Je peux très bien ne pas le penser, mais je le dis. Donc si je le dis, ça existe. Vous voyez, philosophie du langage. Pour se faire entendre, saint Anselme prend l'exemple suivant. De même que rien ne nous empêche de dire ineffable, bien qu'on ne puisse pas dire ce qui est dit ineffable, et de même qu'on ne peut penser impensable, tout en ne pouvant pas penser ce qui est qualifié à juste titre d'impensable, de même lorsqu'on dit ce dont on ne peut rien penser de plus grand, ce qui est entendu peut sans aucun doute être pensé et compris, même si la réalité elle-même, comparativement à laquelle on ne peut penser de plus grand, ne peut être ni pensée ni comprise. L'insensé lui-même, qui soutient que ce dont on peut rien penser de plus grand n'existe pas, est bien obligé de reconnaître qu'il pense et comprend ce qu'il dit, car il pense et comprend la négation qu'il fait. Or, celle-ci ne peut être pensée et comprise sans ses parties. Et l'une de ses parties est précisément ce dont on ne peut rien penser de plus grand. Puisque c'est Dieu. Vous voyez l'objection de saint Anselme. C'est intéressant parce qu'on continuera la fois prochaine et on terminera saint Anselme la fois prochaine pour essayer de bien saisir ça. C'est de bien saisir que accepter qu'on ne peut pas le penser, on le dit, c'est quelque chose. Si on le dit, ça existe. Alors voyez les trois dimensions, hein, parce que c'est ça qui est intéressant. Être, penser, dire. Le toénaï, le tolégaï, le tonaï, le tolé. Hein, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est la grande distinction que vous voyez dans Parménide. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très très fondamental de bien discerner ces trois niveaux. L'être, l'exister, le penser, le dire. Alors vous niez le penser, bien je dis le dire existe. Vous ne pouvez pas nier ça. Je le dis. Eh bien, par le dire, il m'en rejoint l'être. Alors, vous voyez le blocage qui se fait dans saint Anselme. Il identifie penser et être. Et il l'identifie non pas pour n'importe quelle réalité, mais pour la réalité suprême. La réalité suprême a un privilège qu'elle existe de cette manière que nécessairement en elle, l'être, penser et dire sont identiques. Ce que Parménide dit à propos de l'être. C'est la grande révélation de Parménide. C'est intéressant, oui, de retrouver Parménide ici, dans le cœur de saint Anselme. De retrouver Parménide, parce que c'est exactement ça. Vous voyez, là on trouve, il y a lui, on retrouve quelque chose qui montre le lien de la pensée. On retrouve là quelque chose, il ne cite pas Parménide, il ne pense sûrement pas Parménide, mais pensant l'être de Dieu, il dit que dans l'être de Dieu, penser et être, c'est la même chose, et dire, c'est la même chose. Et donc on identifie les trois. On essaiera de comprendre, hein, l'erreur. J'espère que vous la voyez petit à petit. parce que c'est important.